Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on démarre ces immanquables au Charles avec la polémique du jour.
Elle concerne Eugénie Bastier. Le Parisien a révélé que France 2 avait débauché Eugénie Bastier, journaliste conservatrice du Figaro, pour sa nouvelle émission politique à la rentrée. Un recrutement vivement contesté en interne par les journalistes de France Télévisions qui ont publié un communiqué hier soir. Ils dénoncent une journaliste très conservatrice et souverainiste. Selon eux, elle ne peut incarner et animer le débat politique de France 2. Ils pointent notamment ses propos anti-MeToo et selon eux, il est regrettable de rémunérer une chroniqueuse qui attaque constamment l'audiovisuel public.
Fred Hermel, est-ce que ça vous choque cette fronde des journalistes de France 2 contre l'arrivée de Eugénie Bastier ?
Alors si la Société des journalistes de France Télévisions voulait faire de la publicité pour le rapport parlementaire de Charles Arlonc qui dénonce le manque de pluralisme au sein de France Télé, il ne pouvait pas faire mieux. Voilà. Il se trouve que Eugénie Bastier n'est pas une amie, mais je la connais. C'est sûrement l'une des journalistes les plus douées de sa génération. Elle a 34 ans. Elle est brillantissime. Elle est quand même responsable des pages idées du Figaro, ce qui n'est pas rien. Enfin, je veux dire, le Figaro, c'est quand même un journal sérieux, quand même. Voilà.
Mais on peut ne pas cautionner ses idées.
Bah, ses idées, elle est de droite.
Oui.
Bah... Oui. Donc, ça veut dire que dans une émission politique, une chroniqueuse ne peut pas être de droite. Après, elle va pas animer le débat. C'est l'heure de vérité. Elle va faire partie des différents.
Il y aurait trois intervieweurs, voilà. Eugénie Bastier donc, mais aussi Marc-Olivier Fogiel et Benjamin Duhamel.
Exactement. Avec des visions du politique différentes pour questionner.
Oui, sauf que la différence, c'est que moi, je ne sais pas pour qui vote Marc-Olivier Fogiel et je ne sais pas pour qui vote Benjamin Duhamel. Je ne connais même pas leur orientation politique. Là, Eugénie, je ne connais pas leur orientation politique. Oui, enfin, Eugénie Bastier, je la connais.
Oui, elle est de droite, mais sais pas pour qui elle vote.
Mais est-ce que c'est pas gênant d'avoir d'un côté une fille qui est de droite dont on sait qu'elle est de droite, et de l'autre côté deux intervieweurs dont on ne sait pas le bord politique ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre Eugénie Bastier et d'un autre côté un chroniqueur affiché à gauche ? C'est ça que je veux dire. Moi, ce qui me gêne, c'est de connaître le positionnement de quelqu'un qui va interviewer un homme politique et de pas connaître le positionnement des autres.
Parce qu'elle est au Figaro.
Oui, mais on sait qu'elle est droite.
On l'a entendu sur CNews, je pense. Se tromper, on peut dire qu'elle est droite.
Mais on a plutôt pris, en tout cas, l'heure de vérité. Moi, j'ai très envie de revoir cette émission parce que c'est toute mon enfance. François va être virieux et tout ça. Enfin, bref, c'est un grand défi parce que c'était quand même la top émission. Donc, il y a un risque que prend France Télévisions. Elle est surtout là, Olivier Dacier, parce qu'elle est vraiment très bonne. Elle est très cultivée.
T'as des gens de gauche très bons aussi.
Il y a un vrai débat. Marc-Olivier Fogiel, très à droite.
Moi, je sais pas pour qui il vote, Marc-Olivier Fogiel. Voilà. Et je le connais depuis des années. Oui. Je suis incapable de te dire pour qui il a voté.
C'est un grand journaliste. Et Benjamin Duhamel, qu'on a bien connu aussi.
Je suis incapable de te dire pour qui vote Benjamin Duhamel.
C'est toute la question dans l'éthique et dans la responsabilité et le cas de conscience d'un journaliste. Quand on fait du journalisme politique, on va être amené à interviewer à la fois des gens de gauche et des gens de droite. Et par définition, un journaliste compétent, il est objectif. Il prend pas parti.
L'objectivité, ça n'existe pas.
S'il vous plaît.
Déjà, un journaliste doit être honnête.
Laissez parler Pierre.
Normalement, en tout cas, par acquis de conscience et par éthique, un journaliste est objectif. Même si, dans l'isoloir, il va aller voter pour qui il veut, on n'est pas censé le savoir. Moi, j'ai en tête Jean-Michel Apathy qui l'a dit officiellement, il a coupé sa carte d'électeur.
Il vote blanc, il l'a toujours dit.
Certainement deviné qu'il est plutôt de gauche ou plutôt de droite, peu importe. Attends.
Il a toujours dit qu'il votait blanc.
Il affiche, et les journalistes politiques compétents comme Benjamin Duhamel n'affichent pas ouvertement leur positionnement politique. Un journaliste compétent et objectif n'affiche pas ouvertement pour qui il va voter.
Mais elle est éditorialiste, c'est pour ça qu'on
se met d'accord sur le terme. Est-elle embauchée en tant que chroniqueuse éditorialiste ou en tant que journaliste?
Alors, elle va poser des questions.
On est dans un débat. Non, mais attendez, on va pas rentrer dans les subtilités de journalisme éditorialiste. Le grand public s'en fiche. Quand il regardera l'heure de vérité, il verra qui interview. Son seul, ce qui fait un bon journaliste, c'est pas la neutralité absolue, le fait de même pas avoir à la moindre opinion sur quoi que ce soit. C'est d'être dans la vérité. Tant qu'elle ne donne pas des fake news, des faux faits, qu'elle ne tord pas la réalité.
Charles,
elle pourrait pas être intervieweuse à l'entre-deux-tours, par exemple.
Moi, je sais
que je
pourrais
ses opinions politiques.
Je pourrais me poser des questions si elle s'est amenée à interviewer le candidat à l'élection présidentielle de la droite. Je pourrais me poser des questions sur son objectivité. Qu'elle soit ou pas compétente.
Parce que là, on se pose pas des questions. Excusez-moi, sur le service public. On se pose pas des questions quand il y a un invité de gauche.
Ne polémique pas surtout, on se les pose aussi. Fred, on se les pose aussi. Je dis que globalement, droite comme gauche, ce qui va compter, c'est l'objectivité.
Ce qui aurait été intelligent,
gens, vu qu'on sait que Jenny Bassier est une journaliste plutôt de droite conservatrice, c'est qu'ils mettent aussi dans les intervieweurs quelqu'un de gauche conservatrice.
Exactement.
Parce que là, en vrai, Benjamin Duhamel et Fogiel, ils sont à peu près au même niveau politiquement, je pense. Ils sont pas réputés pour être des journalistes très à gauche, là où Eugénie Bastier
n'est très à droite.
Très à droite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il mettait quelqu'un très à gauche de l'autre côté, bon, bah, ce serait peut-être plus
fair. Elle n'est pas très à droite, elle est de la droite
Eugénie
conservatrice.
Eugénie Bastier, elle a tenu, pour moi, des propos, gauche, notamment sur MeToo, qui, moi, en tant que féministe radicale, m'ont un peu fait du mal. Après, je
la respecte en tant que féministe radicale, tu te dis.
Oui, mais je la respecte en tant que journaliste profondément. Et son éthique. Mais en revanche, on peut équilibrer.
En fait, ce qui gêne, simplement pour terminer, c'est parce qu'elle est de droite. C'est ça le problème.
Non, mais on
c'est-à-dire
peut équilibrer.
Quand
t'es
de droite,
on pourrait équilibrer, moi je suis d'accord avec
Élise. Quand tu es de droite en France, tu es suspect.
Mais voilà. Pour moi, il aurait fallu équilibrer, tout simplement pour que les choses elles soient claires.
Aucun souci à ce qu'elles soient là, mais il faut équilibrer.
Exactement. Le coup de tonnerre du jour.
Ah oui, le tournant politique du jour.
Ça me rend malade.
Elisabeth Borne quitte la direction de Renaissance en cause.
Et qui savait qu'elle était chef de Renaissance?
Oui, elle faisait partie en tout cas de la direction du parti dirigé par Gabriel Attal. Et c'est justement parce qu'elle trouve que ce parti sert trop l'aventure solitaire de Gabriel Attal qu'elle choisit s'écarter de la direction du parti.
Ils s'aiment pas beaucoup, tous les deux. On rappelle que Gabriel Attal avait remplacé Elisabeth Borne à Matignon. En même temps, c'est fou quand même. C'est un peu dommage. Mais non, mais elle était première ministre, deuxième femme première ministre il y a 3 ans, et aujourd'hui elle en est à quitter la tête du parti.
Direction d'un parti politique. Hein, c'est pas non plus le scandale ou l'aventure ou l'information politique de la semaine. Elle sort aussi un livre qui est programmatique.
Baptisé Réveillons-nous.
Voilà, où elle annonce beaucoup de choses alors qu'elle a été aux manettes pendant quelques années.
Elle avait peut-être les pieds moins liés.
Moi, ça me fait toujours rigoler que ça soit Bruno Le Maire ou maintenant Elisabeth Borne. Et qui, une fois qu'ils ont arrêté la vie politique aux manettes, ils ont été aux manettes, ils se mettent à écrire des bouquins pour dire il faudrait faire ça.
Non, mais Elisabeth Borne, elle s'est fait particulièrement maltraiter. On a voulu mettre une femme première ministre, elle est restée 3 mois.
Non, elle n'est pas restée 3 mois déjà.
J'exagère. À la Marseillaise.
Franchement, son discours, elle est son premier discours à l'Assemblée, elle se fait huer, c'est scandaleux.
C'est à l'image, c'est symptomatique de comment les deux quinquennats Macron ont traité les femmes. Il n'y a pas eu de femmes à des postes de ministères régaliens. Les femmes étaient secrétaires d'État.
Il y a Catherine Vautrin aujourd'hui aux armées.
Oui, bah maintenant, aujourd'hui, parce qu'on
demande aux Français qui est ministre des armées, qui sait que c'est Catherine Vautrin.
Qui c'est Catherine Vautrin?
Savait que c'était Sébastien Lecornu. Non, mais elle a un poste régalien, ça a un peu progressé.
On a un peu chié sur les femmes ces deux derniers quinquennats, excusez-moi de le dire. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose de très triste. Je vais vous dire quelque chose de très triste. Vous savez que j'ai étudié le sujet. Quel a été le gouvernement de la Ve République avec le plus de parité?
À droite,
sous Nicolas Sarkozy.
Bien sûr.
Voilà. Où on avait des femmes au poste régalien. On avait Rachida Dati, Valérie Pécresse, Ramayad, Ali Omari, et comment elle s'appelle, Roselyne Bachelot.
Roselyne Bachelot, enfin, culture.
Nathalie.
Des femmes, en tout cas, qui ont marqué l'époque en politique. Il n'y en a pas eu ni sous Hollande, ni sous Emmanuel Macron. C'est d'une tristesse grave.
Très normal.
C'est quand même pas l'information du jour, donc je propose qu'on aille ailleurs.
Voilà. Bon, enfin, vous êtes dur avec Elisabeth Borne. Elle a été première ministre, c'est normal qu'on en parle.
Elisabeth Borne est une haute fonctionnaire.
Oui, bah et alors?
Voilà, c'est pas une politique. Donc elle n'a pas marqué comme politique. Voilà.
Bah si.
Bah si, la réforme des retraites et tout, excusez-moi, pardon.
Bah, oui, ça lui a imposé.
Elle est marquante, c'est une pupille de l'État, c'est une femme. C'est une femme politique d'exception, Elisabeth Borne, il faut le dire.
C'est une servitrice de l'État.
Oui, politique
mais c'est pas une politique.
C'est la première personne au monde que j'ai vu courir avec un sac à main sur Paris Match. Elle avait fait des photos d'elle en train de faire du running. Elle avait un petit sac à main. Je me suis dit, mais il n'y a pas un conseiller qui lui dit, mais en fait.
Mais oui.
On va pas y croire.
Elisabeth, Babette, enlève ton sac.
T'imagines, la séance photo, vas-y, fais un footy avec ton sac à main. Mais c'est crédible. Bien sûr, tout le monde va y croire.
Oui, ça m'avait un peu frappé.
Ça prouve bien qu'elle n'est pas politique.
Les photos du jour,
En parlant de photos, un grand sondage sur la manière dont les Français prennent des photos. D'abord, un Français sur trois prend des photos tous les jours, désormais, tous les jours des photos, grâce au smartphone, évidemment, 85% utilisent leur téléphone, 17% ont encore un vrai appareil photo, 60% des Français impriment régulièrement les photos qu'ils prennent, les Français qui photographient davantage leurs animaux que leurs enfants, mais oui, dans ce sondage, et plus de 40% retouchent régulièrement leurs photos, c'est même un vrai phénomène chez les jeunes.
Est-ce que les gens retouchent des photos de leurs animaux?
Oui, pour le rendre encore plus
Pierre,
beau.
Est-ce que vous...
Non, oui, je prends des photos de mes animaux. Mais non, je ne les retouche pas par l'IA.
Ah oui. Je trouve ça hyper dur de retoucher les photos de ces gosses avec l'IA. Genre, il a un peu de bouton, le petit, là, je vais.
Mais c'est affreux. Je sais pas trop s'en aller, là. Ouais. Non, c'est un peu toujours et tout. Je sais pas, un peu. Non, je sais pas si c'est pas ça.
Bah, retoucher les photos de ses enfants, c'est un peu. C'est quand même un peu dur, quoi. Enfin, je trouve.
Et surtout, on a un nouveau réflexe quand on fait des photos toute la journée. Ouais, ouais. Combien alors, de milliers de photos dans votre
téléphone? Tiens, quelle est la dernière photo que vous avez faite? Regardez, c'est la première fois que je vous autorise à regarder dans vos téléphones portables, tout simplement pour regarder la dernière photo que vous avez faite.
La dernière photo habillée, Fred. Hein.
Oui, voilà. Allez, Charles Magnin.
C'est une photo du tapis de course sur lequel j'ai couru hier pour me souvenir de ce que j'ai fait.
Ah oui, d'accord. Moi, c'est les photos de clés que j'ai retrouvées chez moi. J'ai dit, à qui sont ces clés? Voilà, tout simplement.
Bah, moi, c'est Décathlon d'Aqua Boulevard avec un ami. On a pris en photo le maillot de l'équipe Décathlon CMA-CGM parce qu'on est fan de cette équipe.
Ah, bravo.
Voilà. Peut-être qu'on peut vous l'avoir, vous savez.
Oui. Ah bah oui, oui, j'attends.
Élise Goldfarb.
Moi, c'est une photo d'un pote à moi qui a ouvert un resto hier et j'ai pris en photo son resto.
Ah bah c'est bien, ok. Et voilà. Fred Hermel.
Je peux pas.
Si. Allez-y.
Je peux pas.
Non. C'est les photos de deux livres que j'ai reçus d'une maison d'édition que j'aime beaucoup qui s'appelle Arléa. Et donc j'ai fait une petite story Instagram avec. Donc voilà, c'est deux photos.
Le livre s'appelle Le Petit Chien Thérapeute.
Comme on voit, tout ça est extrêmement intéressant. Oui, vraiment, là, c'est waouh.
C'est vraiment très intéressant.
Inutile.